Le bébé.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Je suis également la maman de 3 merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes qui le désirent à venir conter leur enfantement. Libérer la parole, faire part de nos joies, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Pour ce tout premier épisode, je suis en joie d'accueillir Mélanie, une maman, également doula, qui vient nous conter la naissance de ses 2 filles et son cheminement vers un enfantement libre. Des récits pleins d'humour et d'émotion. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue Mélanie, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast Enfanter et Devenir. Tu es la toute première élue à venir participer. Et c'est vraiment un bonheur pour moi de te recevoir. Dans un premier temps, j'aimerais savoir un petit peu quel est le cheminement qui t'a emmené vers tes choix.
Oui, alors ça date, j'ai pas de moment précis en fait où ça s'est mis en place. Ça a commencé, j'ai l'impression, assez tôt parce que j'ai voulu être maman. Aussi loin que je me souvienne, j'ai voulu être maman déjà. Et c'est devenu vraiment évident quand j'ai eu 14 ans. Et là, j'avais encore le schéma un peu type classique que je tenais de ma propre famille, en fait. Hein. On accouche à l'hôpital, c'est douloureux, et puis ça se passe comme ça, et voilà. Mais avec quand même beaucoup de tendresse autour. Et puis petit à petit, comme c'était ma passion vraiment, que je rêvais de devenir mère, bah, je me renseignais à gauche, à droite, je regardais beaucoup. À l'époque, il y avait Baby Boom qui passait à la télé, le reportage sur les hôpitaux et les maternités. Donc, quand je regardais ça, ça me martelait la tête de choses un peu qu'aujourd'hui, je ne défends pas spécialement. Et bon, voilà, ça a petit à petit étoffé mon cheminement. Et puis, un jour, j'ai vu le film Le Premier Cri.
Vous le versez.
Je pense que... Ouais, c'était il y a un moment déjà, hein, une dizaine d'années, je pense. Et dedans, il y a le premier témoignage en fait, que je voyais d'un accouchement non assisté, en fait. Dedans, il y a une Canadienne hein, qui accouche seule, mais entourée. C'est-à-dire, elle est seule dans le sens où elle n'a pas de sage-femme ni de médecin autour d'elle, mais elle est avec sa tribu, quoi. Elle est avec ses filles, ses amis, sa famille, tout ça.
Ah oui, elle est en communauté, je me souviens bien, ça m'avait marqué aussi, très touchant, en effet.
Ouais, j'ai trouvé ça génial, en fait, cette confiance qu'elle a, et surtout, cette approche de la vie et de la mort aussi, parce que moi, ça, au début, ça m'avait choqué de se dire, bah, mais tant si ton bébé il meurt, enfin, la réaction classique, quoi. Et puis, là, c'est ça qui a semé la première graine, je pense. Aussi loin que je remonte, en fait, c'est ça. Et après, petit à petit, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à réfléchir à l'accouchement à domicile, avant même d'être enceinte, hein, j'avais même pas mon chéri encore, je commençais à réfléchir à ça, et puis je me suis prise au jeu à lire des témoignages sur des forums internet, et j'ai trouvé ça mais incroyable en fait, toutes ces femmes qui savaient faire, qui souvent accouchaient avant que la sage-femme arrive, ou alors que la sage-femme faisait rien du tout, et je trouvais ça génial, et moi qui suis passionnée de, je sais pas si on peut appeler ça de l'anthropologie, mais de l'évolution bah, des peuples à travers le monde et de leur façon primitive, mais au sens instinctif du terme, tu vois, de vivre, la naissance, ça me fascine. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'était clair pour moi. Après, c'était devenu clair. Et puis, bah, quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu trouver une sage-femme qui pratiquait les accouchements à domicile. Mais sans trop en parler non plus, j'en parlais pas autour de moi, ou alors quand j'essayais, j'avais tout de suite des réactions craintives et réfractaires. Donc bon, j'étais pas non plus à fond dans le truc. Johan, mon conjoint, il était pas non plus très chaud pour ça. Et du coup, bon, à chaque fois que je téléphonais, je devais pas paraître très, très emballée ou très convaincue du truc. Donc, j'ai toujours eu des refus.
Et t'en parlais clairement à ton compagnon?
J'en parlais avec lui et je lui disais, écoute, moi, j'aimerais ça et tout, ça me fait pas peur. Et puis, bon, je le sentais, pour un premier, en tout cas, je le sentais pas très chaud. Il me disait clairement, ça lui faisait peur. Puis dans ma famille, il y a un passé assez lourd d'enfants mort-nés, même une cousine morte en couche, une cousine pas à moi, mais dans ma famille. Donc, en fait, toute ma famille avait peur. Ça faisait très peur, donc je pense que je portais peut-être ça en moi aussi, je sais pas. En tout cas, j'étais pas... Je sais pas, chercher plus loin, quoi. J'étais un peu déçue, mais bon, on a trouvé une maternité sympa à Pertuis, a mis des bébés, tout ça. Plutôt nature, et donc voilà, on était parti là-dessus. Et voilà, je pense que ça s'est fait comme ça. C'était un cheminement lent et doux. Et...
Il y avait une petite graine depuis déjà longtemps. La petite graine, il lui a fallu du temps dans ce terrain propice pour pouvoir grandir.
Ben, c'est ça, parce que tout simplement, en fait, c'est des renseignements que j'ai dû aller chercher de moi-même parce qu'ils n'étaient pas autour de moi, quoi. Donc je pense que si j'avais eu ne serait-ce qu'une personne autour de moi qui avait vécu ça, et avec qui j'aurais pu en parler, ça aurait tout changé, honnêtement.
Ouais.
Ça aurait tout changé.
Tu n'avais pas eu l'occasion d'avoir accès à des récits de naissance libre à ce moment-là?
Non. Okay. Non, parce que je ne savais même pas que c'était possible, en fait. Je ne savais pas... Je savais... Enfin, je ne me posais pas la question, finalement, hein, comme... comme je te dis, tu vois, je regardais Baby Boom, j'étais pas moi dans ma tête, on accouche à l'hôpital voilà, enfin, je me posais pas plus de questions que ça. J'étais tellement concentrée sur mon bébé, sur ce qu'elle me disait et tout, que bon, bah voilà, la graine était plantée et puis elle a mis le temps qu'il fallait pour germer. Oui, déjà, et c'est très bien comme ça.
Il y a déjà tellement de choses à penser, c'est déjà une telle révolution, l'arrivée d'un enfant, que c'est sûr que. On a beaucoup d'informations et en même temps, pas toujours celles qui nous correspondent non plus, quoi.
Complètement. Ouais. Voilà.
Mais pour le coup, c'est vrai que l'enfantement libre, c'est quelque chose que moi, par exemple, j'ai découvert à travers des histoires, tu vois, quand j'étais en voyage. Mais ça portait pas ce nom. C'est comme l'hygiène naturelle infantile ou la DME. Enfin, c'est quelque chose qui se vit. Après, on n'a pas forcément des mots pour en parler, en fait. Et la première fois que j'en ai vraiment entendu parler, c'était sur le livre Intime Naissance, que j'ai lu quand j'attendais mon deuxième. Et pareil, ça a été tous ces témoignages, en fait, voilà, sous la main, magique. Voilà, ça a été vraiment bluffant pour moi de tomber sur tous ces témoignages, de dire, mais oui, mais c'est ça.
C'est ça, c'est retrouver en fait cette confiance dans nos corps qu'on a perdu. Mais pour moi, il y a toutes les complications qu'il y a pendant la grossesse, la grossesse et l'accouchement, pour moi ça vient beaucoup du fait aussi qu'on est déconnecté de nos corps et qu'on a perdu complètement la conscience et la confiance dans nos corps et dans nos capacités à mettre au monde, en fait, parce que on s'écoute plus, on délègue totalement nos corps et notre santé dans les mains des médecins et des sages-femmes et des professionnels de santé en pensant qu'ils savent mieux que nous. Alors, c'est pas forcément un tort parce qu'effectivement, ils sont formés, ils sont indispensables en cas de problème. Et heureusement qu'ils existent. Mais d'un autre côté aussi, le fait d'être déconnecté de nos corps et de nos sensations, peut-être qu'on va être moins alerte aux signaux que nous envoie notre bébé ou nous envoie notre corps, et du coup ça va peut-être compliquer les choses un petit peu, ou alors on va pas se faire confiance, on va sentir ces signaux mais on va pas oser en parler, ou on va faire confiance à la personne qu'on a en face de nous. Et donc je pense que ce genre de choses, ça peut aussi amener à des complications ou des choses comme ça, alors qu'en fait... Pour moi, évidemment, il y a des complications qui arrivent, même quand tout est optimal, mais pour moi, ça doit pas, c'est pas la norme, quoi. Ça doit rester rare, quoi, ce genre de choses.
Oui, oui, je te rejoins. Il y a énormément de complications, c'est iatrogène, en fait. Ça dépend vraiment de l'environnement, et s'il y a eu un frein à un moment donné, c'est aussi ça qui peut créer une cassure dans la courbe naturelle des choses, quoi. Ouais. Et du coup, donc ton cheminement, donc ta première, tu disais, vous avez trouvé une petite mater sympa, un hôpital ami des bébés, donc ça c'est pareil, hein, c'est aussi un symbole comme quoi il y a des choses qui sont mises en œuvre pour le lien mère-enfant, pour l'arrivée de bébé au plus naturel.
Ouais, ça a commencé, ouais. Ouais, c'était sympa, on avait fait la visite, on avait l'impression que tout le monde était le smile, tout le monde était content, tout le monde était gentil. Et puis après, je sais pas, parce que le jour de l'accouchement, je n'ai pas du tout vécu comme ça, en fait. J'ai eu un pré-travail très très long qui a duré 48 heures, je pense, à peu près. Et j'étais tellement excitée que j'ai pas dormi, hein, évidemment, parce que ça commençait surtout à devenir intense la nuit. Donc la nuit, j'étais là, ça y est, c'est le moment. Et grosse erreur, j'ai pas dormi, j'ai préparé mes trucs autour de moi toute la nuit et j'ai fait ça deux nuits de suite. Et le lendemain, enfin, au bout de nuit, on est parti à la maternité. Ça faisait 48 heures que j'avais des contractions très régulières, un maximum toutes les 10 minutes, et sinon c'était plutôt toutes les 4-5 minutes. Et donc quand on est parti à la maternité, j'ai mis le pied dans la maternité et plus rien. Plus rien du tout, ça s'est complètement stoppé. Donc j'ai appris après que c'était quelque chose de très fréquent, le fait de sortir de son cocon en fait, hein, de plus être chez soi, en sécurité, et tout ça, ça a stoppé le travail, quoi. Et là, ben, encore... J'ai encore patienté près de 24 heures à la maternité. Ils m'ont mis un monitoring et puis il ne se passait rien. J'avais une contraction par heure à peu près.
Le coup classique, on réactive le néocortex. Allez, c'est parti. Voilà. Et après, il faut réussir à retourner dans sa bulle.
Voilà. Un peu dans le village, vous faites le marché et puis vous revenez en fin de matinée et puis on refait un monito. Et s'il ne se passe rien, vous rentrez. Et donc, là, j'étais frustrée, quoi. Ça faisait 48 heures qu'il ne se passait rien. Et donc, j'ai voulu accélérer les choses. En fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu accélérer les choses. Et comme quoi, je vais peut-être pressée, hein, c'est pas bon. Et donc, à chaque contraction, je forçais, en fait, je poussais. Et donc, je me suis provoquée une petite fissure de la poche. Ça fait qu'ils m'ont gardée. À la maternité, quand on est revenu, c'était vraiment une micro-fissure, quoi. Il y avait à peine de quoi faire le test positif. Et donc, ils nous ont gardés. Et là, ça a duré des heures et des heures. J'ai accouché que le lendemain à 5h du matin. Mmh. Et ouais. Donc, j'étais épuisée. Les contractions devenaient super intenses, mais pas du tout efficaces. Il y avait une infirmière qui a voulu me faire un cathéter pour la péridurale, mais elle m'a fait n'importe quoi, elle m'a charcuté. Ensuite, on nous a mis dans une chambre, c'était un soir de pleine lune, quelque chose comme ça. Et la maternité, il n'y a qu'une salle de naissance, une salle de travail et une salle de naissance, et c'était plein. J'étais la huitième, en fait. Oui, on était huit à coucher en même temps, et il n'y avait qu'une salle. Donc, il n'y avait personne pour moi, il n'y avait personne pour personne. D'ailleurs, tout le monde courait, et tout le monde était stressé, donc l'ambiance n'était pas top. Moi, j'avais très, très mal. J'ai mal vécu ça, quoi. Ensuite, on nous a mis dans une pièce avec ballon, écharpe et tout ça pour se suspendre. Et là, j'avais très, très, très mal, quoi. Je vomissais, j'en pouvais plus. Je voulais qu'on m'amène de la musique et personne n'est jamais venu. On m'a dit, les gens y rentraient, ils allumaient la lumière, ils sortaient. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et puis, pour la péridurale, parce que rien ne se passait, hein, j'étais toujours à 1 cm au bout de presque 30 jours. Donc, on a voulu me mettre un Nuvin, tu sais, la perfusion de morphine. Et... l'anesthésiste, alors là, mais je sais pas ce qu'il avait fumé, mais on était au beau milieu de la nuit, il m'a mis des cathéters, j'avais 5 cathéters dans les bras, j'en avais 2 dans un, 3 dans l'autre, et il arrivait pas, en fait, je sais pas ce qu'il faisait, il arrivait pas à me percer les veines, il se marrait, il disait que mes veines, elles roulaient, et puis moi, j'étais en train de vomir à côté, je pleurais, donc ouais, c'était pas très sympa. Et puis après, j'étais complètement perchée, quoi, avec la morphine, une fois qu'il me l'a mise. Après, j'ai perdu la notion du temps. Après, je me souviens qu'on m'a emmenée en salle de travail, que j'ai dit que je voulais pas d'ocytocine de synthèse, mais ils m'en ont mis quand même. Ça marchait que d'un côté. Donc, on m'a mise du côté où ça marchait pas pour que le produit descende. Et au bout d'une heure et demie, il marchait plus dans l'autre. Donc, on m'a mis une dose de cheval. Et puis, je ne sentais plus rien du tout. Hein. Mes jambes étaient totalement paralysées. Et puis, au moment de pousser, y avait Joanne qui me tenait une jambe, une auxiliaire de l'autre pour me tenir les jambes. Et je sais pas comment j'ai fait, mais je sentais rien du tout, mais je ressentais à quel moment j'allais avoir une contraction. Okay. Et la sage-femme elle hallucinait parce que je sentais avant que elle le voie sur son moniteur, quoi. Donc je lui disais, ok, là je sens que ça va pousser et tout. Elle me dit, mais je comprends pas, comment vous savez ça? Je lui dis, mais vous êtes sûre qu'elle est bien placée, ma fille? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle a la tête qu'elle avait la tête, tu sais, vers le ciel au lieu de vers les fesses. Je sentais qu'il y avait ça. Ouais. Et elle me dit, tout va bien, donc tout va bien. Donc on me dit de pousser, et puis ça a été très très efficace la manière dont je poussais, elle est sortie, et puis effectivement elle était comme je disais, bien loin. Et donc ça, le fait qu'elle soit sortie comme ça, j'ai tout fait la chirurgie. Mais bon, plus rien de compté à ce moment-là, j'avais ma fille sur moi et c'était très bien. Mais par contre, c'était sûr, je savais que la prochaine fois j'accoucherais pas à l'hôpital. Quoi. Là, à partir de là aussi, là, ça a été, disons, l'élément déclencheur en fait. Parce que le séjour à la maternité, après, ça a été très long. On est resté 5 jours là-bas avec peu de considération. Enfin, c'était dommage. C'était dommage parce qu'elle avait un beau potentiel, cette maternité. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des mamans à qui elle conviendrait vraiment bien. Mais moi, comme j'étais déjà partie dans l'optique de faire un accouchement à domicile, du coup, je suis restée sur ma faim, quoi. Et je pense que je me suis braquée aussi. Ça vient pas que de la maternité, hein, ça vient aussi de moi, je pense. Je me suis braquée et du coup, j'ai vu. Bon, ça s'est passé comme ça. Voilà. Et c'est ce qui m'a amenée après à faire mon enfantement libre pour ma deuxième fille. Mmh, okay. C'était, disons, l'élément déclencheur.
Oui, en effet, des fois, et la petite graine est là depuis un petit moment, mais. En effet, une tempête avec suffisamment de pluie va l'aider à germer un peu plus rapidement.
C'est ça. mais après, cette histoire, ça a été donc l'élément déclencheur de ça, mais ça a aussi été l'élément déclencheur de mon burn-out.
D'accord.
On y reviendra plus tard.
Burn-out ou plutôt dépression postpartum, du coup?
Non, burn-out... Parce que c'est compliqué, en fait, j'ai fait une fixette là-dessus après du fait que je ne voulais pas retourner à l'hôpital.
Okay.
Et quand je suis tombée enceinte d'Eline, c'est là que j'ai fait un burn-out.
Okay.
Parce que ça m'a stressé, en fait, cette pression que je me suis mise pour ne pas retourner à l'hôpital, ça m'a causé une descente d'organes.
Okay.
Donc en fait, j'avais l'utérus carrément, littéralement, qui pesait et qui tombait, quoi.
Okay. Et, alors que tu étais enceinte.
Hein ?
Alors que tu étais enceinte, du coup.
Ouais. Ça a commencé, j'étais enceinte de 15 semaines.
Ouais.
C'était le moment, tu vois, en fait, c'était très symbolique parce que c'était le moment des 15 semaines, tu sais, où on doit rendre la fiche à la CAF, comme quoi t'es enceinte, tu sais. Et je voulais pas du tout, je me sentais pistée, je me sentais traquée de partout, qu'il fallait faire des prises de sang et tous les mois. Et en fait, ça correspondait à quelque chose, mon ventre, il grossissait pas. Et donc, comme j'étais tout le temps stressée et tout le temps comprimée, mon ventre il pouvait pas se développer et donc il se développait comme il pouvait vers le bas, quoi. Il descendait et en médecine chinoise les descentes d'organes de l'utérus, ça veut dire ça, c'est vraiment symbolique de la pression maternelle, ce qu'on porte en tant que mère, en tant que femme. Donc ça, c'était ça pouvait pas être plus clair.
À ce moment là vraiment c'était plus possible pour toi d'imaginer réenfanter de nouveau dans une maternité? Et là, t'avais gagné en fait cette confiance-là, quoi. Cette expérience qui était magnifique parce que tu as eu ta fille. D'un côté, ouais. Elle a été ternie et c'est vrai que ça t'a décidé vraiment à cette fois, ça a levé d'autres... Ça a peut-être pas enlevé les peurs que tu avais avant, mais en tout cas, ça t'a montré que les peurs de retourner à l'hôpital étaient plus grandes que les peurs d'enfanter seule.
En fait, étant donné que j'ai pas été écoutée là-bas, dans le fait qu'il fallait que je m'écoute, que moi je savais ce qui était bon pour moi en fait. Et donc suite à cette expérience donc de prolapsus là, de descente d'organes, là après ça a été un peu la descente aux enfers pour moi, cette grossesse. J'avais donc ma première qui avait à peine 2 ans, je sais pas si elle les avait tout juste 2 ans, et elle était pas gardée. De temps en temps, elle est peut-être 4 heures par semaine chez une nounou. Donc j'ai commencé à la mettre un peu plus parce que ça me stressait énormément cette histoire. J'avais peur de perdre mon utérus, perdre mon bébé. Ça m'a mis encore plus de stress. Et puis, suite à ça, donc, je suis allée aux urgences pour qu'on m'examine. Et là, j'ai encore subi des violences obstétricales, des humiliations. Enfin, c'était... Pourtant, la première sage-femme que j'ai vue, elle était vraiment géniale. Elle était super gênée de mettre le spéculum. Elle était vraiment, tu sais, toute douce et super sympa. C'était une jeune, hein. J'imagine, ça donne espoir dans les nouvelles écoles, en fait. Je me dis que la nouvelle médecine est moins pire, que ça évolue. Et tu vois, elle avait même réchauffé le spéculum et tout pour pas que ça fasse froid. Enfin, elle est vraiment attentionnée, super sympa, quoi. Et après, on m'a emmenée dans un service avec des experts qui n'ont rien trouvé, qui ne comprenaient pas ce que j'avais et qui n'ont absolument pas cherché. Enfin, ils ne comprenaient pas ce que j'avais, donc j'avais rien, en fait. Et donc, on m'a installée, du coup, avec une blouse, tu sais, les blouses où j'étais à poil dessous, les blouses qui s'ouvrent derrière, là, donc les fesses à l'air.
Ouais.
On m'a installée sur une table gynéco, comme ça, avec cette blouse. C'était une gynéco qui devait peut-être avoir, je sais pas, peut-être 40 ans, tu vois. Et donc, j'avais les jambes bien écartées, tu vois. Et puis, il y a tout d'un coup, il y a 5-6 personnes qui rentrent, 5-6 internes, sans prévenir. Et une fois qu'ils étaient tous là devant moi, face à mon entrejambe, elle me dit « Oh, ça vous dérange pas qu'ils regardent ?»
Quelle horreur. Ah, écoute, oui.
Vous êtes 7 devant moi, qu'est-ce que je peux dire ?
Non, mais c'est ça. C'est pas un choix qui t'est laissé à ce moment-là. C'était un peu...
C'était clairement pas un choix. C'était un choix déguisé, quoi. Un non-choix déguisé. Donc... j'ai dit, vous êtes déjà là, de toute façon. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Ensuite, elle m'a fait... je vais pas détailler là-dessus, mais il y a d'autres trucs pas drôles. Et on m'a dit, vous inquiétez pas, hein, si ça tombe toujours après l'accouchement, on vous opérera, et puis c'est pas grave.
Super. Enfin, très rassurant, en effet.
Faites pas des agrafes pour vous tenir l'utérus. Écoutez, je suis très rassurée.
Et très donc, médicalement parlant, quoi. S'il n'y avait pas forcément... Ouais.
C'était encore pire que tout. Je dis, mais plus jamais je veux les revoir. Je ne peux plus jamais mettre les pieds dans un hôpital. C'est fini. Donc ça continuait encore plus à me stresser. Et je suis allée voir une micro-kiné sur les conseils d'une sage-femme qui me suivait à ce moment-là. Une micro-kiné qui a été géniale, qui a débloqué des choses, des nœuds en moi déjà que j'avais avec l'hôpital, parce que petite, j'avais fait une méningite et j'ai fait 2 mois d'hôpital suite à une méningite. Donc déjà, j'avais eu un gros blocage avec l'hôpital à ce moment-là. Et donc, elle a débloqué des nœuds énergétiques à cause de ça. Et puis, quand je suis sortie de là-bas, j'arrivais plus à fermer ma veste parce que mon ventre, il avait grossi. Et alors j'avais toujours un peu le prolapsus, mais avec la grossesse, ça a fini par remonter finalement, parce que le bébé il était trop gros pour descendre, donc c'était remonté. Donc j'avais plus ce problème-là, et là j'ai pu commencer à souffler un peu.
T'étais enceinte après... de combien de temps là du coup ?
De quoi ?
T'étais enceinte de combien de temps à ce moment-là ?
J'étais toujours autour de entre 15 et 20 semaines.
Ok, d'accord. Okay.
Ouais, c'était au tout début encore.
Ah, c'est plus tout à fait le début, 15-20 semaines.
Oui, c'était que la moitié, à peu
près. C'était le début pour toi, à ce moment-là, le début où tu as commencé à être plus à l'aise.
Voilà, là, ça a commencé à aller un peu mieux, mais non, en fait. Parce que ma grande a commencé à flipper. Elle était sevrée la nuit, et elle a commencé à retéter, mais non-stop. Non-stop. Je faisais des nuits blanches tous les jours. Pendant des mois, pendant 3-4 mois, ça a été vraiment vraiment dur. Elle avait commencé déjà avant, avant que je fasse le prolapsus, donc j'étais déjà dans un état de fatigue extrême et elle a continué et en fait elle tétait et sa bouche c'était un étau, elle me mordait et elle lâchait plus et si j'avais le malheur de m'enlever, c'était hurlement et panique. Pas top non plus. J'étais très fatiguée. Donc, Johan a fini à un moment donné, parce que je craquais, quoi. Il a fini par dormir avec elle. Et moi, à dormir toute seule. Donc, j'ai pu récupérer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, accumulation de fatigue, tout ça. Et ensuite, j'ai été malade tout le temps. Donc, vers 35 semaines, 32 semaines, 35 semaines, j'ai eu mon blessé mouet qui a été une bouffée d'oxygène dans ma grossesse compliquée. Vraiment un blessé mouet magnifique organisé par mon amie Manon. Et puis là, en fait, le soir du blessé mouet, je suis tombée malade. Et j'ai été malade pendant non-stop, presque jusqu'à l'accouchement après.
D'accord.
Une bronchite et un rhume en même temps, et j'ai plus guéri, quoi. J'étais tellement épuisée. Je pense que même toute mon énergie vitale, quoi, elle était à chaise, quoi. Par contre, je sentais que mon bébé, il allait très bien. Il n'y avait pas de souci avec elle. Et là, j'ai commencé à faire un petit burn-out. Un jour, en voulant me lever, j'ai pas pu, en fait. J'ai pas pu me lever. J'étais paralysée dans mon lit, épuisée. Et quand je voulais me lever, ma tête, j'avais des vertiges, quoi. Je tombais. Et puis, j'avais le côté droit du corps paralysé. Je pouvais bouger. C'était un burn-out physique complet, quoi. Et donc, là, j'ai été obligée de rester couchée.
Ça devait être hyper inquiétant, en plus, pour toi. Tu n'as pas trop dû savoir ce que c'était au départ?
C'était inquiétant et en même temps pas trop. Okay. Parce que c'était chiant. Honnêtement, c'était vraiment pénible parce que j'étais obligée de rester dans mon lit pendant une semaine et j'étais pas bien, j'avais mal, je pouvais pas dormir, enfin c'était vraiment pénible. Et puis en même temps, le plus pénible c'était que Joanne il doit tout assurer seul, quoi, parce qu'il bossait, il devait s'occuper de Louise, et c'était le plus dur pour moi parce que j'avais l'impression de lui poser des problèmes. Et puis de pas être là pour Louise aussi, c'était super dur. Donc là, elle a été gardée beaucoup, hein, tous les après-midi, je crois, ou peut-être tous les jours. Il y a ma mère qui est venue nous aider aussi. Et pendant une semaine, moi, je suis pas sortie de lit, ou très peu, quoi. Et après, ça a commencé à revenir petit à petit. Donc là, j'étais au fond du gouffre, je me suis dit, mais jamais j'accoucherai à l'hôpital, jamais je pourrai accoucher chez moi. Comment tu veux que j'accouche chez moi? Je tiens pas sur mes jambes, je pourrais pas. Et ensuite, on m'a emmenée à la maternité encore. J'ai fait trois séjours à la maternité pendant ma grossesse. Donc, on m'a emmenée et pour prendre la tension, pour comprendre ce que j'avais. Et puis, bah, c'est là que le mot il est sorti, que la dame qui m'a auscultée, je ne sais même pas si c'était une sage-femme, quoi. C'est là qu'elle m'a dit, voilà, vous êtes épuisée, c'est un burn-out maternel, quoi. Et là, qu'est-ce que j'étais contente d'entendre ce mot. Ça m'a fait un bien fou, quoi, de mettre des mots là-dessus, de me dire... Ok, bah du coup c'est bon, je vais me reposer. Puis en plus, il y avait Joanne qui l'avait entendu et ça me rassurait, tu vois. Je me disais, bon, voilà, c'est officiel, il faut que je me repose. Et voilà, quoi, c'est pas du cinéma.
Ouais, c'est ça, comme s'il fallait que ça soit validé quelque part.
Ouais, voilà, ouais. Voilà, ça m'a fait vachement bien d'entendre ça.
Que t'aies le droit de pouvoir. Ouais.
Ouais, c'est ça, là je pouvais lâcher. Et donc, je me suis remise sur pied petit à petit. Ça a été. En fait, j'ai eu l'impression que dès que je me suis remise un peu, j'ai l'impression que ça y est. Et on a gonflé la piscine et tout, j'étais à 37 semaines. Donc on a gonflé la piscine, je sais pas, allez, j'étais regonflée à bloc. Et là, Louise a pris une gastro. Donc pendant 4 jours, on n'a pas dormi. Et ensuite, c'est moi qui l'ai attrapée. Et sauf qu'elle est devenue chronique, en fait. Elle est pas partie, j'ai pas guéri. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais d'habitude, en 2 jours, il n'y a plus rien. Et puis là, c'est pendant 3-4 jours, ça passait pas. Toutes les 30 minutes non-stop, Je vomissais. J'arrivais pas à garder une cuillère à café d'eau dans la bouche. J'ai perdu 8 kilos.
Wow.
8 kilos à partir du burn-out. Hein, du burn-out, donc en un mois à peu près, j'ai perdu 8 kilos. Mmh. Ouais. Et donc 4 pendant la gastro en 4 jours, quoi. Et donc là aussi, pareil, j'étais totalement épuisée, lessivée. J'arrivais plus à parler tellement j'avais la bouche sèche. Et donc, Joanne, il m'a emmené chez le médecin. Il m'a dit, non, mais là, c'est urgence directe. Elle est complètement déshydratée. J'avais la langue blanche. Ma peau, quand je pinçais ma peau, elle restait...
Elle restait en place, vous voyez, ouais.
C'était totalement déshydratée. Et donc, je suis restée 3 jours à la maternité sous perfusion. Mais prise en charge par des incompétents, honnêtement. C'est moi qui ai dû allumer ma perfusion parce qu'il m'avait perfusée, mais elle était éteinte. Donc c'est moi qui ai dû à 2 reprises en plus. Et une fois mon cathéter s'était bouché, ça passait pas. Enfin, ouais. J'ai fini par me remettre d'aplomb quand même. Le médecin à la fin des trois jours, il est venu me voir et il me dit bon, voilà, vous allez mieux. Par contre, votre petit projet là, vous oubliez. Hein. De quel projet vous parlez ? Bah, d'accoucher à domicile. Je dis, mais comment vous êtes au courant de ça ? Et bah, c'est écrit dans votre dossier. Je dis, oui, comment ça, c'est écrit dans mon dossier ? Et en fait, la sage-femme à qui j'en avais parlé, à qui ça devait rester secret, elle l'avait écrit dans mon dossier. Elle a dit, attention, j'ai prévenu cette femme qu'un accouchement non assisté était dangereux. Elle veut quand même le faire, etc. Quoi. Enfin, elle avait écrit en rouge, hein, en gros et tout, avec plein d'exclamations. Alors, bon, bonjour le secret professionnel, quoi, alors que c'est totalement légal d'accoucher chez soi.
En France, hein, oui, en effet.
Voilà, je suis sortie de là, mais encore plus enragée que jamais. Et à dire, ben ouais, ben, tu sais quoi, on verra, mon gars. On verra. Là, j'étais en forme. Je suis sortie de là à 39 semaines. Et j'étais mieux. Franchement, après ça, ça a été vachement mieux. Bon, le sommeil de Louise, c'était toujours pas ça, mais Joanne dormait avec elle. Et puis, j'ai fini par... En fait, ça m'a permis, ça, ces deux expériences de burn-out, là, ça m'a permis de lâcher prise sur accoucher à la maternité, parce que pendant le burn-out, je m'étais faite à l'idée d'y accoucher. Et pendant la gastro, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit « Mais venez m'aider, je ne peux plus rien faire, je ne pourrai jamais accoucher chez moi, je veux une césarienne, j'aurai jamais la force d'accoucher, quoi que ce soit, tu vois, tellement ça avait été long pour lui, je me suis dit « Mais là, si ça dure encore 3 jours, tu n'y arriverai jamais. » Et puis finalement, un soir, donc moi j'étais sur le canapé, puis je sens que de l'eau qui coule, et je me dis « Ça y est ». Je suis prête, je t'attendais. C'était 2 jours avant le terme. Et donc, je me prépare, je prends une douche pour voir, pour être sûre que c'était... Bon, j'étais sûre que c'était ça, mais je voulais voir si le liquide était d'un bout de couleur, s'il n'y avait pas de méconium dedans, si tout allait bien. Et puis, Joanne est descendue, et là, je lui dis, bon, bah, écoute, Joanne, là, ton multiplex de foot, il va devoir attendre. C'est son seul défaut. Et puis, c'était parti. Et puis, finalement, après avoir réfléchi, je lui ai dit, écoute, fais ta vie, regarde ton foot. Moi, je vais dans la chambre et je me prépare. Et donc, je suis montée, j'ai fait ma petite bulle, j'ai préparé ma chambre tranquille, j'ai ouvert les lettres que mes amis avaient écrites à mon blessing way pour le jour de l'accouchement. Et puis là, après, j'ai plus revu personne jusqu'au lendemain, quoi. Je me suis couchée,
tu sais. Tu t'es couché pas... du coup et ça a coupé. Tu t'es couché et là cette fois tu t'es dit attends la dernière fois je me suis pas reposée non.
Oui c'est ça exactement. La dernière, je me suis dit ok cette fois je vais pas faire la même erreur que pour ma première. Je vais dormir le plus possible. Donc j'ai jeté ma montre, je l'ai enlevée, tu vois, je l'ai jetée loin. Je ne peux surtout pas avoir de notion. En fait j'étais beaucoup plus confiante et beaucoup plus dans l'instinct, dans me faire confiance, pas du tout dans le contrôle. J'ai dit cette fois je laisse faire. Si je vais à la maternité, c'est pas grave, je laisse faire, je m'écoute. Si je sens que je suis capable, je le fais. Si je vois que c'est trop long, on va à la maternité. Je voulais pas de stress, en fait. Et ça a tout fait, ça a tout changé. Le fait de laisser une porte ouverte, ça m'a vraiment permis d'être vraiment sereine, de tout lâcher. De pas avoir de montre aussi, parce que du coup, j'étais pas dans le contrôle des contractions et de combien ça dure et combien elles sont espacées, et quelle heure il est, est-ce que c'est long, est-ce qu'on est au milieu de la nuit, bref. Tout ça, c'était loin de moi. Je me suis couchée, j'ai mis ma petite musique de vibration qui fait du bien, là. 528 Hertz. Et j'ai dormi. J'ai relu, si, le conte de la femme source de vie d'Isabelle Chalut.
Ah, super. Ouais.
Mais il m'a tellement porté, ce livre. Et puis, donc, je sentais, tu vois, c'était vraiment bien de me sentir portée par mon corps, en fait. Je dormais, je sentais que j'avais des contractions, tu vois, mais ça me réveillait, mais bon, je laissais faire, tu vois, je me suis dit, de toute façon, c'est pas le moment. Puis j'allais aux toilettes et je me vidais, tu vois, je savais que c'était pas très loin non plus, parce que quand, pour Louis, j'allais aux toilettes, c'était un signe que mes intestins, ils se vidaient pour laisser place nette.
On n'en parle jamais assez, c'est, toutes les femmes se disent, mais j'ai envie de faire caca, mais oui, mais c'est normal, il faut.
Ben oui. Oui, c'est ça. Et puis,
c'est bon signe.
Je suis confiance. Bon, des fois, ça va trop vite, il n'y a pas le temps. Mais ce n'est pas grave, ça permet aussi de faire le système immunitaire du bébé. Et ça. Et du coup, bah, voilà, je me suis laissée porter. Puis je me suis dit, bon, allez, c'est la nuit, je vais laisser Joanne et Louise dormir. Ça commence à devenir un peu intense. Dès que je me levais pour aller aux toilettes, ça devenait très intense, en fait. Donc, je suis restée couchée. Et puis, je me dis, à 6h du matin, je réveillerai Johan pour lui dire qu'il remplisse la piscine. Et puis, ben, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, si ça a eu un lien psychologique ou quoi, mais à 6h du matin, je ne peux plus rester au lit, il fallait que je me lève. Et là, ça s'est devenu super fort. Je pense qu'en fait, à ce moment-là, à 6h pile, je devais être à 10.
Ouais.
Quelque chose comme ça. Ou peut-être à 9, tu vois. Enfin, c'est devenu vraiment intense et je n'avais plus aucune pause entre les contractions. Et tout d'un coup, tu vois, j'ai passé une nuit super cool et puis tout d'un coup, blanc. Direct, j'étais dans mon sommet, dans ma phase de désespérance. Et donc, Joanne, il a été réveillé par le gémissement. Et il y a Louise qui nous a rejoint. Elle est venue sur les lits, puis elle me faisait des caresses. Et elle me disait « Maman, bobo, bobo ». Puis elle me donnait ma ventoline, tu sais, parce qu'elle voyait que j'avais mal et elle savait que c'était mon médicament. Elle me disait « Tiens, maman, un médicament ». Et moi, je la prenais dans mes bras et puis j'essayais de la rassurer. Et puis là, il y avait une contraction. Et puis alors, je ne pouvais plus sourire. Alors, je chantais pour essayer de ne pas trop la stresser non plus. Mais en fait, là, je n'étais pas bien. Je ne voulais personne. Je pensais être, tu vois, des femmes qui ont besoin de contact, de massage, de câlins et tout, parce que je suis très tactile et très hypersensible, affective et tout. Mais en fait, je voulais juste être toute seule et que personne ne me touche. Du coup, j'ai cherché un endroit, je courais dans la maison comme ça, avec mes contractions non-stop. Et puis Joanne qui essayait de remplir la piscine, mais le robinet, il est tellement vieux, l'adaptateur, ça marchait pas, il y avait des fuites partout, tout était mouillé. Louise qui me suivait partout. Du coup, j'ai dit, bon, Joanne, je descends et vous me laissez tranquille. Donc, je suis descendue, je courais partout dans la maison, puis d'un coup, j'entends ploc, ploc, ploc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis content, puis c'est pas grave, on s'en fout. Je cherchais un endroit où je serais bien. Tu sais, aucune, il n'y avait aucune position qui allait. J'avais plus de pause. Je disais, Joanne, j'ai pas de pause. Et puis, à un moment donné, je vais dans la salle de bain pour essayer de trouver un coin. Je vois que c'est tout mouillé par terre. Je dis, Joanne, c'est trempé, la piscine, elle fuit, le plafond, il fuit. En fait, le plafond, il fuyait. Je dis, moi, je m'en fous, c'est pas mon problème. Et là, tout d'un coup, il y a une contraction super intense qui m'a achevé, en fait, qui m'a projeté sur le canapé. Je me suis jetée sur le canapé, là, j'ai plus bougé. Je me suis mise à genoux, les coudes sur le dossier du canapé, et j'ai plus bougé jusqu'à la naissance. Là, comme ça, c'était comme ça que c'était plus tolérable. Et donc, j'ai dit, c'était trop bizarre parce que ma tête, elle était pas du tout déconnectée. Enfin, un petit peu, peut-être. Elle était pas complètement à côté de ce que mon corps faisait, en fait. Je disais à Joanne, appelle la nounou, on va partir à la maternité, ça va être super long et tout. Et puis en même temps, j'étais en train d'enlever ma culotte, tu sais, parce que je savais que t'allais être pas loin. Donc j'enlève ma culotte, je dis, appelle la nounou, on va à la maternité. Oh, il appelle la nounou, il est 7h moins quart à peu près, 7h moins 10, elle arrive. Et quand Joanne revient, j'ai dit, ok, Joanne, c'est trop bizarre, j'ai voulu en fait me toucher pour voir à peu près à combien j'en étais de dilatation, tu vois. Et je sentais sa tête. Je lui dis, c'est bizarre, je sais pas si je suis complètement dilatée, mais je sens un truc dur, je pense que c'est sa tête. Moi, j'étais complètement à l'ouest, parce que je sens la tête, mais je suis pas sûre que je sois dilatée, tu vois. J'arrivais pas à y croire, en fait. Il me dit, bon, on va à la maternité, alors. Je dis, mais non, elle arrive, là, je t'ai dit qu'il y avait sa tête. J'ai commencé à pousser, et là, je riais, mais je riais aux éclats, quoi. J'ai pris un fou rire. Et puis là, ouais, genre, voilà, ça, je sentais que ça poussait, mais tellement fort qu'il y avait des sons qui sortaient. J'avais l'impression d'être un bodybuilder qui soulevait un poids énorme. Des sons très, 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 très puissants, quoi. Et là, pouf, la tête qui sort direct. Dans ma tête, je me disais, mais oh, ça va brûler, ça va brûler. Et puis en fait, pas du tout, elle est sortie facilement. Je lui dis, va chercher le miroir. On regarde, et puis ben, voilà, je voyais sa tête qui était là, et j'ai posé ma main dessus, c'était incroyable. Je lui dis, mais oh, j'ai sa tête dans ma main, c'est incroyable. Et puis là, je sentais que j'avais pas mal. Je sentais qu'elle tournait toute seule, tu sais, elle bougeait là dans mon ventre, je la sentais qui bougeait, et puis il y avait sa tête qui était sortie. Et pouf, en une poussée, après, elle est sortie, elle était minuscule et toute violette et toute glissante. Et là, j'arrivais pas à la prendre parce qu'elle glissait. Et une fois que je l'ai attrapée, après, tu sais, j'ai eu le réflexe de lui aspirer le nez et la bouche, comme ça, avec. Tu sais, de la lécher et puis de prendre son nez dans ma bouche, quoi, pour l'aspirer. C'était drôle. C'était vraiment instinctif, quoi. Et puis après. Donc j'étais comme ça avec elle sur moi. Puis je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de marcher, tu vois, de me promener dans la maison. Et pouf, le placenta, il est sorti. J'ai juste eu le temps de dire à Joanne, vite, vite, va chercher le saladier. Et il est tombé, mais vraiment, peut-être une minute après la naissance, quoi.
D'accord, oui, vraiment.
Et puis après, je sais vraiment, c'était vraiment bizarre parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais donc le placenta est sorti, j'ai dit ok, bah tiens Joanne, prends-la, je vais me doucher. Je l'ai même pas gardé contre moi ou quoi, ça me ressemblait pas du tout en fait. Allez, je vais me doucher, prends-la, hop, je suis allée me doucher, machin. Et puis après, je dis bon, viens, on va s'installer. J'étais au taquet. Je dis allez, viens, on va s'installer dans la chambre, on va se mettre au chaud pour pas qu'on ait froid et tout. Mais j'aurais pu aller faire à manger, quoi. J'étais en pleine forme, quoi. C'était trop bizarre. Et après, on s'est installé. Puis c'est là que j'ai commencé à me poser un peu. Mais sinon, j'étais sur une autre planète, quoi. Totalement à fond, à courir partout. Pas du tout, tu sais, les trucs qu'on voit dans les livres où une fois que t'accouches, tu sais, t'es un peu dans un état second, t'as besoin de te poser, t'as besoin de temps avant d'atterrir et tout. Mais là, pas du tout, quoi, j'étais au taquet.
La grosse décharge d'adrénaline, elle t'avait vraiment mis dans la...
Ouais, complètement, complètement. Et puis c'était drôle parce que juste avant qu'elle aille chez la nounou, Louise, elle m'amenait ses jouets. Donc elle m'avait amené sa Barbie Vaiana, là. Et puis Joanne, il a mis une allaise partout. En fait, j'ai accouché sur Vaiana en 2-2, quoi. C'était drôle, Vaiana. Heureusement, il y avait l'allaise partout. Mais... C'est rigolo. Ouais, ça fait des super souvenirs, tout ça. Et ce qui était génial aussi, c'est qu'une fois qu'on s'est posé avec Elim toutes les deux dans le lit, dans notre chambre, Joanne, il a tout nettoyé. Il est descendu. Il a épongé tout le sang. Il a jeté la jolie couverture toute blanche, toute neuve, qui était pleine de sang. Il a couché dessus et puis il a tout fait propre, alors que lui il a plutôt, c'est pas trop son truc, tu vois, tout ce qui est les fluides et le sang et tout ça, c'est le...
Ouais, lui aussi il a été à fond d'hormones, il savait qu'il fallait qu'il fasse place nette, quoi.
Ouais. Il a vraiment assuré, franchement, ouais, il a géré, quoi. Après il est parti chercher Louise et au bout d'une ou deux heures, quoi, il est parti chercher Louise et puis c'était la rencontre.
Ouais.
C'est super. Et voilà.
Wow, c'est magnifique. Merci d'être venue livrer comme ça à ton histoire. C'est superbe.
Ouais,
c'est une très, très jolie naissance que tu viens.
Ouais, c'était top. Mais surtout que personne ne croyait en moi, quoi. Avec tout ce que j'avais vécu pendant ma grossesse, j'étais un peu la seule à y croire, quoi. Et il y avait aussi une personne. S'il y avait une personne, c'était mon amie qui a organisé le Blessing Way. C'était la seule à me dire ouvertement qu'elle croyait en moi. Et même moi, parfois, j'en doutais. Donc, ouais. Ça, c'est super important d'avoir quelqu'un qui croit sans faille.
Ouais, carrément. Ça, je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir au moins une personne qui croit, en effet.
Super.
Bah, ah, magnifique. Et du coup, est-ce que suite à cet enfantement, est-ce que tu as senti que tu étais différente, toi ? Est-ce que tu as senti que ça a vraiment profondément changé quelque chose en toi ?
Alors honnêtement, j'ai mis longtemps avant de me rendre compte parce que sur le coup, j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire, en fait. Et encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, en fait, ça paraît plus impressionnant chez les autres.
Ouais.
Tu vois, avant de le vivre moi-même, ça paraissait incroyable. Et puis en fait, une fois que je l'ai vécu, je me suis dit, mais en fait, c'est juste normal. Enfin, j'ai rien fait, en fait. C'est mon corps qui a tout fait. Moi, j'ai rien fait, finalement. Tu vois, c'était vraiment cette sensation de... En fait, tu te vantes de quoi, là ? T'as rien fait. Et c'est de voir, en fait, plus les réactions des autres qui m'a fait prendre du recul et me dire « Ah, bah, peut-être... Ah, et puis, en fait, je fais un burn-out et tout. Et puis, quand même... Ouais, et du coup, ça m'a... C'est ça, en fait, tu vois, la sensation d'empowerment, un peu.
Ouais, ouais.
J'ai eu après ça, mais ça a été long, quoi. Il a fallu, je pense, aussi que je sorte un peu de ce cercle de fatigue, là. Parce qu'après, quand elle est née, ça a été très difficile pour moi de gérer ma fatigue. Et je pense que j'ai fait un petit baby blues, alors que je n'avais pas fait pour Louise, ce qui est très bizarre, parce que j'ai eu un accouchement pas tant respecté pour Louise et très respecté pour Aline, donc comme quoi, hein, parfois.
Ouais, l'historique aussi joue, quoi. La fatigue, comme tu dis.
J'étais épuisée, et puis je manquais de confiance en moi. Sur plein de choses. J'ai toujours manqué de confiance en moi sur plein de choses et puis c'est venu petit à petit, quoi, avec Éline en plus qui avait beaucoup de mal à téter, les endormissements c'est très physique, Il fallait tout le temps que je fasse des squats, que je la berce alors que je venais d'accoucher, tu vois, que j'étais fatiguée. C'était pas évident. Mais sinon, qu'est-ce que ça a changé? Ça m'a donné l'impression que tout était possible, en fait. Que ça m'a donné plus la preuve que tout le monde peut le faire, en fait. Tout simplement, que tout le monde peut y arriver. Et ça m'a donné envie de le partager, d'accompagner là-dedans, parce que j'avais toujours voulu être doula, mais personnellement, je me sentais pas complète et je me sentais pas légitime. Bon, ça, la légitimité, c'est un autre sujet. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à me sentir légitime, mais je me sentais pas du tout légitime d'accompagner là-dedans sans l'avoir expérimenté moi-même. Bon, après, voilà, c'est d'un point de vue personnel. Hein. On n'a même pas besoin d'être maman forcément pour accompagner des femmes dans la maternité, mais pour moi, c'était important. Et là, c'était bon. Après, je me suis sentie prête et sans forcément... j'en parle pas quand je parle avec des femmes ou quoi que j'accompagne, j'en parle pas de mon expérience, mais ça me donne la confiance que je peux leur donner, en fait. Ça me permet de leur donner toute ma confiance en elles, et je pense que ça se sent aussi. Si on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué d'accompagner quelqu'un.
Complètement.
Ça m'a apporté la confiance en moi qui me permet d'avoir confiance
à la femme,
tout simplement.
Ouais, c'est beau. Bon, chouette, je pense qu'on pourrait continuer à en papoter pendant vraiment longtemps parce que c'est passionnant. Bon, chouette, écoute, moi, je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu as une petite phrase de la fin, un petit message que tu voudrais faire passer aux personnes qui écoutent?
De se faire confiance. De s'écouter et d'accepter aussi d'avoir ses limites, d'en prendre conscience qu'on a des limites, peut-être, et que c'est pas grave, c'est normal, c'est correct, et il faut juste être OK avec ça.
Super.
Voilà, et puis après, le reste, ça coule tout seul, quoi. Pas se mettre de barrières, mais s'écouter.
Merci beaucoup, Mélanie, pour ton partage précieux. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Bientôt, un compte Tipeee sera dédié. Merci. Si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire.